Bonjour et merci à tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent régulièrement sur notre blog Caminando hacia la Patagonia. Alors nous sommes aujourd'hui au bord de la magnifique Laguna Malleco qui se trouve à peu près à la latitude de Temuco en direction de la cordillère. Vous pouvez le voir sur votre carte, ça se trouve près de deux volcans, le volcan Lonquimay et le volcan Tolhuaca. C'est une lagune entourée de montagnes, incrustées dans les montagnes d'origine volcanique, et sur les crêtes desquelles on peut voir les araucarias, qui sont les grands arbres en forme de parasol, qui sont aussi l'emblème de cette région dont elle porte le nom, et qui y sont depuis quelques années protégées comme monument national au Chili. Donc aucune ne peut être abattue. Au fond, sur les montagnes les plus hautes, on aperçoit encore de la neige. Et de la neige qu'on va sûrement rencontrer dans nos prochains jours de marche, puisqu'on est en train de grimper en direction de la cordillère. On a effectivement commencé à nous diriger vers la cordillère depuis à peu près une semaine. Et puisqu'on souhaite passer en Argentine par un col qui s'appelle Paso y Calma, de manière à pouvoir connaître un peu l'autre côté de la cordillère aussi. Avant ça, et depuis quelques semaines, on n'a pas donné énormément de nouvelles. C'était plus ou moins volontaire. Mais surtout parce que tous les paysages qu'on a traversé était sans beaucoup d'intérêt et peu attractif pour la vue. En effet, on traverse depuis plusieurs semaines quasiment uniquement des plantations de pins et d'eucalyptus, et on a pu grâce à nos rencontres un peu dimensionner l'ampleur de la tragédie que traverse la forêt native chilienne, mais pas seulement elle, et à travers elle, toute la société, le pays qui risque d'en souffrir des conséquences d'ici quelques années, d'après ce qu'on voit. En effet, depuis la deuxième semaine à peu près de notre voyage, donc à peu près un mois et demi maintenant, on a commencé à entrer dans les plantations de pins et d'eucalyptus, et on a observé que toute la cordillère de la côte, depuis la 6e région jusqu'à la 8e région, maintenant on est dans la 9e, est entièrement plantée. Bon, il y a très peu d'endroits qui subsistent avec une forêt originelle. Alors évidemment, les plantations de pins et d'eucalyptus apportent un peu d'argent au pays, et c'est peut-être le seul bénéfice que le pays en tire, encore que on ne sait pas vraiment par rapport aux bénéfices que les entreprises en font. Par les impôts, l'État en récupère un peu, mais la plupart du bénéfice, ce sont des grandes entreprises qui le mettent dans leur poche. Donc qu'est-ce que ça signifie dans la pratique sur le terrain? Premièrement, c'est l'exode rural qu'on a pu observer dans tout un tas de secteurs où on est passé, où les gens préfèrent vendre leur terrain et puis aller vivre à la ville. Et ceux qui restent, ben, ça devient de plus en plus difficile puisque les services diminuent, les bus arrivent moins parce qu'il y a moins de personnes. Les écoles aussi ferment puisqu'il y a moins d'élèves. Petit à petit, le peu qui reste sont obligés de partir aussi et d'aller se réfugier dans les villes, où ils ont en général des conditions de vie qui sont beaucoup de moindre qualité. Et en général, ils vivent de manière disons, plus pauvres aussi. Puisque dans la campagne, même ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, ils peuvent au moins avoir un jardin, avoir des poules, avoir quelques animaux pour diminuer les coûts de la vie. À la ville, il faut tout payer, on s'en rend compte à chaque fois qu'on passe dans une ville. Donc là, on s'aperçoit déjà que les retombées ne sont pas pour les gens qui vivent dans les secteurs ou qui sont plantés. On pourrait penser que toutes ces plantations leur donnent un peu de travail. C'est rare. En général, au moment de la plantation, disons que le passage lorsque la plante de pin eucalyptus est plantée en terre et mise en terre, là, il y a besoin de main d'œuvre aussi pour préparer le terrain. Donc, de diverses manières, soit en brûlant, soit en abattant et en essayant de récupérer un peu de bois. Ce travail-là peut être fait par les gens du coin. Après, en général, il n'y a plus rien à faire jusqu'à 20 ans pour le pin, 20 ans après, et 9 ans après pour l'eucalyptus, au moment où l'arbre est récolté et abattu, pour être emmené ensuite, soit pour faire du bois, soit dans le pire des cas, pour faire des copeaux de bois qui partent ensuite dans l'industrie de la cellulose. Donc le seul moment où il y a un peu de travail, c'est au début de la plantation, après plus rien. Et pour la récolte, en général, les entreprises embauchent dans les villes et c'est de plus en plus mécanisé. Et les plus mécanisés travaillent, ils emmènent quatre machines énormes qui font quasiment tout le travail. Donc depuis qu'ils attrapent l'arbre, le coupent à sa base, ils enlèvent l'écorce et le débitent ils enlèvent les branches aussi et le débitent en différents tronçons de la même longueur. Ça part ensuite, il y a une autre machine qui le charge sur le camion et ça part en direction des usines. Donc là, quasiment aucune main d'œuvre. On a pu quand même voir avant-hier un endroit où c'était des gens qui l'exploitaient encore avec des paires de bœufs. Donc là, il y avait beaucoup plus de personnes qui travaillaient. Tout le travail était manuel. Donc mais enfin, ça représente une exception dans ce qu'on a pu voir. On a aussi pu parler, disons, à travers nos rencontres, on peut voir différentes facettes de la problématique. On a pu parler avec des personnes qui étaient gardiennes d'endroits de fundo, des grandes propriétaires terriens, sur lesquels avant qui étaient cultivés, disons, avec des cultures vivrières comme le blé. Toute la région qu'on a traversée dernièrement, ça s'appelait le grenier à blé du Chili. Aujourd'hui, c'est quasiment tout planté avec de la pin et eucalyptus. On a pu parler aussi avec les gardes-parcs dans les différentes réserves où on est passé, avec des gens qui vivent encore là et qui vivent directement les conséquences et les difficultés dues à l'exode rural. Donc on arrive quand même à se faire un petit panorama de la question. En plus de ça, donc il y a un coût qui est écologique, puisque il y a un tas de produits chimiques qui sont utilisés pour les plantations, d'engrais aussi au début, et produits chimiques pour éliminer certains pathogènes et certains insectes et larves qui peuvent infecter l'arbre. Et aussi pour éliminer certains animaux qui peuvent attaquer les plantations quand elles sont encore petites. Ça constitue aussi un problème au niveau de l'agriculture, puisque une fois disons le terrain planté, le sol perd une grande partie de sa fertilité. Surtout avec l'eucalyptus, avec le pin, apparemment, une fois qu'on a récolté, on peut quand même replanter d'autres cultures. Avec l'eucalyptus, c'est impossible, parce que le sol est acidifié et il y a plus de. caractéristiques nécessaires, disons, pour pouvoir le de fertilité pour pouvoir le cultiver. Et il y a des grands problèmes d'érosion, puisque les pratiques courantes, c'est de pour récolter la forêt, c'est d'abattre tous les arbres sur une grande étendue. Et donc pendant plusieurs années, c'est un terrain qui est voué à l'érosion avec la pluie. Et ça, on a pu le constater, nous, à certains endroits, des pans complets de montagnes et de collines qui sont ravagés et donc parcourus par des grandes crevasses qui petit à petit emmènent le sol qui avant était sur lequel on pouvait produire quelque chose, l'emmène dans les rivières jusqu'à la mer. Et ça constitue un danger aussi pour la ressource en eau, puisque disons les bassins versants, s'ils peuvent pas contenir un peu l'eau, l'eau va directement en lavant tout sur son passage dans les rivières et directement à la mer. Et les forêts, dans ce sens-là, constituent aussi un tampon et permettent que l'eau s'infiltre progressivement dans la terre au lieu de courir superficiellement directement par les rivières et de provoquer l'érosion dont je parlais un petit peu avant. Et sur la qualité de la ressource en eau aussi, puisque quand l'eau érosionne de cette manière-là, elle emmène tout un tas d'éléments nutritifs dans les rivières et qui provoquent la pollution un peu plus bas. Donc voilà un peu le panorama qu'on a pu en faire. Dans la dernière réserve où on était, on a en plus eu la chance de tomber sur un bouquin qui s'appelle justement La tragédie de la forêt native chilienne, et on a appris beaucoup de choses. On a manière à pouvoir compléter un peu aussi cette vision qu'on a eue, et grâce à ce bouquin aussi, on a pu aussi prendre un peu l'ampleur de ce qui constitue cette exploitation massive de la forêt et les pratiques courantes ici. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est dans un endroit absolument magnifique. On se repose les yeux et l'esprit. Et bon, d'ici maintenant jusqu'en Argentine, on aura la chance de parcourir que des beaux paysages. C'est en général ce à quoi le touriste a droit. Nous, en voyageant à pied, on passe par toutes sortes de paysages. Disons que c'est la carte, la route qu'on suit qui nous fait traverser différentes régions. Et on les choisit pas, nous on prend ce qui vient sur notre passage. Et ça permet aussi de se faire une vision un peu plus proche de la réalité de ce qu'est le pays et de la manière dont vivent les personnes ici. C'est un peu pour ça aussi qu'on voyage en marchant. Bon, sinon, le moral va bien. On a quasiment maintenant 900 km dans les pattes, donc on commence à être rodé à ce niveau-là. Au niveau de la logistique aussi pour acheter les aliments. Dernièrement, on a eu quelques soucis parce qu'on traverse des zones qui sont passablement isolées et où a sévi aussi l'exode rural. Donc il y a des endroits où il n'y a aucune possibilité d'acheter. Donc il faut marcher avec certaines réserves. Et puis la dernière fois, on a eu de la chance, dans la dernière réserve où on était, réserve Mayeco, il y a justement des travailleurs qui travaillaient à reboiser une partie qui était brûlée lors d'un incendie en 2002, et qui, juste le dimanche dernier, repartaient après un mois de travail. Donc ils nous ont laissé des provisions pour manger, et c'est grâce à ces provisions-là qu'on peut continuer notre route sereinement. Mais donc on commence à rôder tout ce qui est la logistique. Et maintenant, d'ici peu, on va passer en Argentine. Et puis, on reviendra au Chili à peu près à l'altitude de Puerto Montt pour prendre ce qui est la Carretera Austral, qui est une route qui tente de connecter les différents endroits de l'extrême sud du Chili jusqu'à arriver au grand glacier, au champ de glace, Campo Hielo, où là on sera obligé à nouveau de repasser en Argentine. Donc on commence un peu à slalomer là entre les deux pays. On a commencé à marcher un peu sous la pluie aussi. Pour l'instant, ça ne nous était pas encore arrivé. On était passé miraculeusement entre les gouttes. Donc ça, on commence à tester un peu l'équipement aussi, une manière à pouvoir se préparer petit à petit aux conditions de la Patagonie, qui sont différentes évidemment à celles qu'on connaît ici. On reçoit de temps en temps des appels téléphoniques avec nous un téléphone portable qu'on allume de temps en temps, et quand on a le signal, disons quand on a des barres suffisantes pour pouvoir capter le signal. Et on a la surprise d'avoir des différentes personnes chez lesquelles on a été hébergé, qui nous appellent de temps en temps pour savoir où on va, où on en est et si on va bien. Donc ça nous fait énormément plaisir parce que on se rend compte qu'on a fait des liens et que les gens s'intéressent à notre projet. Et lorsqu'on marche, on a aussi des droits à des coups de klaxon pour nous d'encouragement, et d'autres de voitures qui sûrement nous ont vus à différents endroits de notre parcours. Et donc quand ils commencent à nous voir plusieurs fois, ils nous klaxonnent aussi pour nous saluer. Et d'hier, on a marché sous la pluie là, sur un chemin qui était parcouru par des camions aussi. Il y a trois camions, trois différents qui se sont arrêtés pour nous proposer de nous emmener en stop, mais on est obligé de leur refuser. Ça nous provoque toujours quelque chose, un pincement au cœur de frustrer une bonne volonté, mais c'est la promesse qu'on s'est fait. Et donc à ceux qui s'arrêtent, on essaye de, dans un brin de discussion, de leur expliquer les raisons, de manière à ce qu'ils soient pas frustrés par notre posture. Voilà, j'étais un peu plus long cette fois-ci. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas donné de nouvelles. Et on espère que tout le monde va bien. Et on a pu parler avec quelques-uns par téléphone de temps en temps. On a des nouvelles aussi grâce aux parents. Et on vous contactera, on mettra des nouvelles et des photos des endroits traversés d'ici quelques jours, lorsqu'on retrouvera enfin une ville. C'est pas que les villes nous manquent, mais c'est vrai c'est là où on reprend contact un peu avec le monde, et où on peut faire un peu quelques emplettes pour poursuivre. Et en général, où on peut se payer un petit restaurant aussi pour manger une fois une nourriture un peu plus élaborée et différente à notre régime normal. Voilà, et ben à la prochaine alors, et bonne chance à tous dans vos projets. À bientôt.